Merci. Restons debout un instant alors que nous lisons la parole. Nous abordons tout de suite la parole ce soir pour ne pas prendre trop de temps. Je veux que vous preniez avec moi ce soir le livre d'Exode pour commencer le chapitre 4 du livre de l'Exode. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point à Paris. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Et la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, saisis-le par la queue. » Et il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là l'Éternel, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, est à Paris, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Mis sa main dans son sein, puis il l'a retiré. Voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Inclinons la tête. Et pendant que nos têtes sont inclinées, et nos cœurs aussi, je demande s'il y a des gens ici ce soir qui ont des requêtes de prière. Voulez-vous l'indiquer en levant la main? Que Dieu exauce vos requêtes. Notre Père céleste, nous considérons vraiment que c'est un très grand privilège de pouvoir nous approcher de toi par la prière en venant au nom du Seigneur Jésus. Et il nous a promis que si nous demandions quoi que ce soit en son nom, cela serait accordé. Et tu connais les besoins de chacun de nous, tu sais ce que nos mains levées ont voulu signifier. Je te prie, Père, d'exaucer chaque requête ce soir. Reçois-en la gloire. Et maintenant que le grand docteur de la parole, le Saint-Esprit, vienne sur nous ce soir et se révèle à nous et se fasse connaître à nous par la preuve de sa résurrection. Puisse-t-il venir parmi nous ce soir, Seigneur, et visiter nos cœurs. Nous parler à travers ces choses qu'il a promises pour aujourd'hui. Que les paroles promises pour cette heure se manifestent devant nous afin que nous ayons de l'assurance en ces temps très difficiles dont tu as annoncé qu'il viendrait sur la terre pour éprouver tous les peuples. Et nous en sommes assurément arrivés à cette heure-là, Père, où les hommes sont éprouvés. Et qu'il y a tellement de points de vue différents que pratiquement personne ne sait ce qu'il faut faire. Mais je te prie, Seigneur, de nous faire connaître ce soir que tu es ici et avec nous, présent pour nous aider. Exauce nos requêtes, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai été un tout petit peu en retard chaque soir. J'ai toujours l'impression qu'il faut utiliser ce microphone alors que c'est celui de magnétophone. Par contre, voici, je pense que c'est lui que je dois écouter au-dedans lequel je dois parler. Demain soir, c'est la soirée du banquet, alors ne l'oubliez pas. Je pense que les gens étaient informés de l'endroit où ils vont. Nous apprécions certainement votre collaboration dans cette grande chose que notre Seigneur a faite. Ce soir, eh bien, voici ce que je pense, c'est qu'à moins de connaître la parole de Dieu, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas avoir la foi tant que nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu. Et alors là, si nous savons que quelque chose est la volonté de Dieu, que la parole de Dieu le dit, alors nous pouvons nous y conformer avec joie. Or, si le Seigneur Jésus en personne marchait sur terre ce soir dans une chair humaine et qu'il disait, demain, il va pleuvoir toute la journée. Alors, il serait très facile pour moi de prendre une parapluie pour sortir demain, parce qu'il l'a dit. Par contre, s'il ne l'a pas dit, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, c'est comme ça dans tout ce que nous faisons. Nous voulons savoir quelle heure, dans quel âge nous vivons. Aux nouveaux venus cette semaine, nous avons essayé de montrer que Dieu, dès le commencement, connaissait la fin. C'est ce qui fait qu'il est infini. S'il n'est pas infini, il n'est pas Dieu. Et pour être Dieu, il doit être omnipotent, omniprésent, omniscient et omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout puissant, qu'il sait toutes choses et en tout lieu, et il connaît la fin de le commencement. Sinon, alors, il n'est pas Dieu. Donc, en réalité, rien ne va de travers. C'est plutôt nous. Mais rien de ce qui est dans la parole de Dieu, elle continue son tic-tac comme une horloge. Et quand c'est l'heure où la chose doit arriver, la parole a signé pour cette âge-là, alors la chose arrive. On pourrait penser que ça ne va pas arriver. Parfois, la chose arrive et on ne les reconnaît pas. Jésus a dit, ils lui ont dit, pourquoi donc les scribes, tous les scribes disent qu'Élie doit venir premier? Voyez-vous, c'est donc qu'ils les croyaient. Ils croyaient qu'Élie allait venir. Et Jésus les a regardés, il a dit, Élie est déjà venu, vous ne l'avez pas reconnu. Voyez, alors voyez-vous, c'est passé à côté de ces choses, anges, les scribes, les ministres et les disciples, c'était Jean-Baptiste. Et sa venue était en tout point conforme à ce qui devait être la venue de cet époux, pourtant ils ne l'ont pas reconnu. Et maintenant, il nous incombe de reconnaître l'heure où nous vivons dans et le temps où nous vivons. C'est pourquoi je veux parler ce soir de la voix du signe. Un sujet étrange toutefois, Dieu fait des choses étranges, ses manières de faire sont inhabituelles. C'est ce qui fait qu'il est Dieu, c'est parce qu'il est surnaturel. Et tout ce qu'il fait, il le fait, il peut le faire dans le surnaturel parce qu'il est surnaturel. Maintenant, la voix du signe. Et effectivement, le signe a une voix, le sang a une voix, le sang a crié de la terre, et ainsi de suite. Le sang innocent d'Abel s'est élevé contre Caïn. Et la Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle des choses merveilleuses que ce dont parle le sang d'Abel. Maintenant, notre cadre ce soir, où notre scène s'ouvre, sur l'Exode. Le temps de l'Exode, c'est le temps de l'appel à sortir. L'Exode était proche. Moïse, le serviteur du Seigneur, avait été appelé à exercer une fonction. Et en faisant ce qu'il avait jugé bon de faire, il avait reçu une solide instruction en Égypte. Il avait été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Apparemment, il était un grand militaire, un grand génie militaire de délivrer son peuple de cette servitude puisqu'il était le futur pharaon. Et combien il aurait été facile pour lui de le faire. Mais vous voyez, dans ce cas, alors ça aurait été une chose naturelle. Dieu ne se sert pas des choses naturelles. Il se sert des choses surnaturelles pour montrer ce qu'il est. Donc, après avoir passé 40 ans à recevoir le plus haut et le meilleur niveau d'instruction, il était l'érudit des érudits. Il avait compris grâce à sa mère qui était son tuteur, que c'est lui qui allait délivrer le peuple. Et il a agi selon son intelligence de choses. Et là, tu vois un Égyptien, il a alors constaté que ses efforts s'étaient soldés par un échec et il s'est enfoui au désert. Et l'instruction que l'Égypte avait mise en lui pendant 40 ans, il a fallu Dieu un autre 40 ans pour sortir ça de lui. Voyez-vous pourquoi il ne se fie pas aux préceptes éthiques qu'il lui avait intégrés, mais il se fie au surnaturel. Maintenant, le temps était proche car Dieu avait fait une promesse à Abraham 400 ans auparavant. La promesse que sa postérité séjournerait dans un pays étranger qui les en ferait sortir. 40 ans plus tard, il allait les en faire sortir par sa main puissante. Il allait délivrer son peuple par sa main puissante. Et quand le temps approchait où devait s'accomplir la promesse, alors Dieu a fait entrer Moïse en scène. Moïse, après avoir essuyé un échec complet, il s'est allé dans le désert. Maintenant, le type ici, il y a un merveilleux type que nous ne voulons certainement pas manquer de voir. Vous voyez? Un type, Dieu faisait sortir Israël, son peuple, une nation qui sortait d'une nation. Une nation qui sort d'une nation. Un très beau type d'aujourd'hui, alors que Dieu appelle son épouse à sortir d'une église. Une épouse chrétienne à sortir d'une église chrétienne. Une église épouse à sortir d'une église. Et elle est appelée dans la Bible désignée, j'ai plusieurs notes et références bibliques sur papier ici pour la façon de le voir. Elle est parfois appelée la choisie, l'élu, ou le reste de la postérité de la femme. Elle a été appelée l'épouse, ce que Dieu, dans sa prescience, a décrété. C'est-à-dire que l'épouse sort de l'église. Voyez-vous l'ensemble, c'est une église, mais Dieu se retire de cette église un peuple qui est son épouse. Et il a dit qu'il le ferait. Et il l'a fait. Remarquez où il le fera. Remarquez, voyons comment il a procédé, de quelle manière et comment il a procédé. C'est ce que nous voulons examiner maintenant au moment où il a fait sortir l'Israël, comment il a procédé, de quelle manière il s'est pris. Remarquez, quand est venu le moment où devait s'accomplir la parole promise, Dieu a appelé Moïse par prédestination et il a choisi enfin qu'il remplisse cette tâche. Oui. Dieu a toujours exactement la personne qu'il faut au moment voulu. Rien ne fait défaut avec Dieu. Il l'a dit, ça ne peut pas faillir. Si ça faillit, alors Dieu faillit puisque Dieu est la parole. Remarquez, la parole devait être manifestée. Et au moment où la parole devait être manifestée relativement à une promesse, alors Dieu envoie toujours un prophète pour manifester cette promesse. Parce que c'est à lui que vient la parole du Seigneur. Moïse, qui avait été prédestiné en vue de cela, a été appelé à remplir cette tâche. Personne d'autre ne pouvait la remplir. Quand Dieu a appelé une personne à remplir une certaine tâche, personne ne peut prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place. Vous êtes particulier. Combien de fois je me suis dit que ça me sourirait de prendre la place d'Oral Robert et que ça me sourirait de prendre la place de Billy Graham ou de quelqu'un comme ça, faire comme Billy Graham, aller prêcher à une auditoire, inviter les pécheurs à s'avancer de plus en plus, penser, de ne plus penser à cela, rentrer à la maison et continuer. Je ne peux pas être Billy Paul. Par contre, Billy Paul non plus ne peut pas être moi. Nous sommes tous les deux, je ne peux pas être Oral Robert, Oral ne peut pas être moi. Chacun de vous a une place bien à lui dans l'économie de Dieu. L'un jeûne continuellement et en communion avec Dieu, tandis que l'autre, lui, il chasse les démons parce que celui-là jeûne. Mais c'est tout le corps de Christ qui travaille conjointement dans l'unité. Quand on voit ces barrières dénominationnelles qui nous divisent, ça me brise le cœur, voyez-vous? Parce que c'est ce qui nous sépare. Nous sommes un. Il n'y a personne d'important parmi nous, personne de grand parmi nous. Nous sommes tous pareils, nous sommes des enfants de Dieu. Un seul est grand parmi nous, c'est Christ, celui que nous devons reconnaître. Si nous ne cherchons à recevoir de la gloire, les uns les autres, nous ne pouvons pas avoir la foi parce que nous avons la foi les uns les autres. C'est en Christ que nous devons avoir la foi. Il est celui parmi nous en qui nous devons avoir la foi. Donc personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien il fouillait, combien il essayait de se défiler. Dieu sait pourtant ce qu'il fait. Il savait exactement ce qu'il devait faire pour façonner les choses. Il fallait que ces choses-là arrivent. Mais maintenant, regardez bien. Personne ne pouvait prendre sa place. Maintenant, regardez bien. Dieu lui a donné un signe qui allait confirmer son appel et ses affirmations lorsqu'il descendait en haut. Or, Dieu donne d'autres toujours le message, le messager d'ainsi, d'autre toujours le message d'ainsi et d'une voix qui accompagne le signe. Et ce signe identifie l'homme. Et si c'est quelque chose qui est écrit dans l'Écriture, comme Jean qui a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, et ils ont dit, et je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert, mais comme a dit Esaïe le prophète, il pouvait s'identifier clairement. Et donc, nous constatons que là, que Dieu, toujours, ne change jamais sa manière de faire. Il ne peut pas changer. Dieu fait tout exactement de la même manière. Quand il met en place les éléments de son système. Comme je le disais l'autre soir, il a pris une décision. L'homme allait être sauvé par le sang répandu d'un innocent. Et nous avons cherché par tous les autres moyens de procurer le salut. Nous avons cherché à mener quelque part là où nous avons bâti une ville. C'est ce que le Seigneur a fait. Ils ont bâti un tour. C'est ce que New World a fait. Ils ont eu la loi. Ils ont eu des temples. Ils ont eu des églises. Ils ont eu des organisations. Ils ont eu des systèmes pédagogiques, des systèmes nationaux pour essayer d'amener l'homme à Dieu. Tout ça a complètement échoué. Ça va toujours échouer. Il faut en revenir à son sang répandu. La manière de Dieu de faire les choses est déclarée dans sa parole. Et cette parole est l'entière révélation de Jésus-Christ. On ne peut rien y ajouter ni rien retrancher. Quiconque fera cela, la Bible dit que sa part sera retranchée du livre de vie de l'agneau. S'il y ajoute ou retranche quoi que ce soit, prenez-la simplement telle qu'elle est écrite. La Bible n'a besoin de personne pour l'interpréter. Dieu est son propre interprète. Il interprète en faisant s'accomplir ce qu'il dit. Avec ça, c'est réglé. Si Dieu l'a dit et qu'il accomplit, cela suffit. Elle n'a besoin d'aucun interprète. La Bible dit qu'elle ne peut être objet d'une interprétation particulière. La manière de Dieu est de le faire. Toujours Dieu fidèle au signe qu'il envoie. Il le fait suivre de sa voix. Et c'est toujours depuis que Dieu envoie un signe sur la terre. Or, Dieu ne fait jamais rien, dit la Bible, sans l'avoir d'abord montré à ses serviteurs, les prophètes. Bon, ça va, si ça, c'est faux, alors tout le reste est faux, vous voyez? Il ne fait jamais rien sans l'avoir montré. Et ces voyants, ces prophètes, doivent être identifiés, c'est-à-dire que ce qu'ils prophétisent, nous voyons en Nombre 12, 6, que ce qu'ils disent arrive, alors croyez-les. Mais si cela n'arrive pas, alors ne le croyez pas. Et pour ça, il faut, peu importe tout ce qu'il dit, en combien de la chose arrive et tout, si ça ne correspond pas à la parole, alors c'est encore faux. Il faut que ce soit en harmonie avec la parole. Il faut que ça se cadre avec la parole comme signe pour l'époque en question, l'époque où ces gens vivent. Or, c'est si Dieu l'avait promis de délivrer son peuple par une main forte. Maintenant, au moment de ces paroles, il n'a pas appelé un sacrificateur, il n'a pas appelé un rabbin, il n'a pas appelé un cadre, il a appelé un berger. Là-bas sur la montagne, un fugitif, un prophète né et prédestiné qui ne voulait pas remplir sa tâche. Quand vous entendez les gens dire qu'ils désirent être ceci, cela ou autre chose, être quelque chose, remarquez, Dieu ne les utilise jamais. Dieu a été obligé de poursuivre Moïse pour réussir à la voie, il a été obligé de poursuivre. Ce sont des hommes qui ne veulent pas faire, qui ne veulent pas. Alors Dieu va s'emparer de cet homme-là, de celui qui ne veut pas en fait de montrer ainsi sa gloire. Maintenant, regardez bien, tout véritable signe envoyé par Dieu est suivi d'une voix. Maintenant, si vous remarquez ici le sujet, c'est le signe et la voix. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, alors ils croiront à la voix du deuxième signe. Donc le signe a une voix. Alors, tout signe véritable envoyé par Dieu a une voix. Et cette voix, il faut que ce qu'elle dit correspond à la parole qui est attribuée à ce jour-là, telle qu'elle. Si la voix qui vient, c'est la même voix qu'avant, de la même plutôt, et si vous voyez un signe, et que le signe opéré par cet homme, c'est la même école de pensée qu'avant, alors vous pouvez tout de suite en conclure que ça ne venait pas de Dieu. Et si ça continue à identifier la même école de pensée qu'avant, il n'a jamais été ainsi. Jamais Dieu, ça ira en contre du programme de Dieu. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Sinon, ce ne serait pas envoyé. Ça n'a pas besoin d'être envoyé si c'est la même vieille école de Dieu. Il faut que ce soit quelque chose de différent, mais que ce soit quand même identifié dans la parole comme s'appliquant à cette parole. Voyez-vous, la certitude de la parole de Dieu, voilà ce que ça doit être. Aucune erreur possible, il faut que ce soit la vérité. Il faut que ça soit confirmé par Dieu comme étant la vérité. Et l'homme qui prononce ces choses doit être confirmé par Dieu comme étant voyant, envoyé de Dieu. Sinon, c'est faux. On ne voit même pas du tout, on n'y croit même pas. Les signes viennent de Dieu. Les signes qui suivent, ou la voix qui suit les signes, il faut que ce soit la voix de Dieu qui parle, selon la parole qui s'applique à cet âge-là. Est-ce que vous comprenez? Dieu donne des signes. Pourquoi le fait-il? Il donne toujours des signes. Il leur a dit que c'est dans les signes qu'ils chercheraient à le voir. Dieu donne des signes dans le but d'attirer l'attention de son peuple. Maintenant, examinons ceci à fond. Voyez-vous, les signes sont donnés dans le but d'attirer l'attention des gens. En effet, quand un signe envoyé par Dieu est donné, c'est que Dieu est sur le point de parler. Dieu est sur le point de parler quand le signe est donné. Si ce signe vient du ciel, il vient de Dieu. Et Dieu est sur le point de parler. Il cherche à attirer l'attention des gens. Et la parole vient à son prophète. Et le prophète est identifié par les signes qu'il opère. Ensuite, il en vient à la parole et la parole est manifestée. Et avec ça, c'est réglé. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Dieu a déjà fait l'interprétation. Voyez-vous, c'est tout à fait qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Maintenant, remarquez, Dieu donne le signe dans le but d'attirer l'attention des gens. Ici, le buisson ardent était le signe qui devait attirer le prophète. Le buisson ardent. Moïse était derrière le désert et il faisait paître ses brebis. Et lui, un vieux berger de 80 ans à la longue, il marchait le long d'un vieux sentier, familier peut-être par une matinée chaude. Et tout à coup, il y a eu un buisson en feu et ce buisson ne se consumait pas. Eh bien, ça, c'était tout à fait inhabituel. Or, Moïse, qui était un savant, effectivement, puisqu'il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et ce qui était c'était la plus grande que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, comme il était un savant, et puis il a dit, peut-être il a dit, bon, je vais aller voir quelle sorte de produits chimiques on a pour produire ce feuillage pour cet arbre ne se consume pas. Voyez-vous, s'il avait abordé ça d'un point de vue scientifique, il ne lui aurait jamais parlé. Et c'est pareil aujourd'hui, alors que nous cherchons à aborder cela d'un point de vue scientifique. Vous allez manquer de voir ça. Vous passerez à milliers de dieux. Aborder cela comme Moïse, qui avait ôté ses souliers humbles et l'humilité. C'était là le signe qui devait attirer le prophète. Maintenant, ce signe-là, il doit avoir une voix. Et quand cette voix a parlé, si elle n'avait pas été scripturaire, je ne crois pas que le prophète l'aurait fait. Mais regardez combien de voix qui accompagnaient le signe étaient scripturaires. C'était la preuve que c'était Dieu, en effet. Et il a dit, j'ai entendu le gémissement de mon peuple, et je me souviens de la promesse que je leur ai faite. Vous voyez, le signe, puis la voix scripturaire derrière le signe. Or, ça montre exactement ce que je viens de détailler. Il faut que ce soit un signe qui vient de Dieu. Et si ça n'est, il y a une voix scripturaire derrière celui-ci, en rapport avec la promesse de cette époque-là. Non pas la même école qu'avant, les rabbins, tout ça, et ils avaient été... avec tout, toujours pareil, avec des sacrifices, tout le monde. Mais voici quelque chose de nouveau. Et cette scripture, c'est une promesse. Il y a un signe qui attire les prophètes. Et alors, il a dit, bon, avant de descendre là-bas, il lui faut quelque chose qui l'identifie comme prophète. Voyez-vous? Pour que les gens puissent ensuite le respecter. Il a dit, ils n'admettront pas que le Seigneur me dit. Il a dit, alors, je te donnerai des signes à opérer. Et cela attirera l'attention des gens. Et une fois que leur attention aura été attirée, alors dis-leur ces paroles. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je me souviens de ma promesse. Et je t'ai envoyé pour le délivrer. Et je serai avec toi. Et avez-vous remarqué son premier signe? Il y a eu toutes sortes d'imitations. Tout le monde essaie de jeter un serpent. Et si ce n'est pas la tendance générale chez les gens. Mais quelle sorte de voix avait-il derrière cela? Rien. La voix égyptienne du monde. Et pourtant, il pouvait opérer les signes, mais il n'avait pas la voix derrière celui-ci pour la prière. Mais Moïse, lui, il avait ainsi dit le Seigneur. C'était là la différence. Finalement, les imitateurs ont continué longtemps comme ça, mais savez-vous que la Bible dit que cela se reproduirait dans les derniers jours? De même que Jeannès et Jambres s'opposeraient à Moïse, de même les feront ces hommes ayant une mentalité éprouvée en ce qui concerne la vérité. Qui est la vérité? Jésus-Christ, la vérité, voyez-vous? Ayant une mentalité éprouvée en ce qui concerne la vérité. Maintenant, Jéhovah va parler par sa parole promise. Il faut donc qu'il prépare ses prophètes avant de l'envoyer. En effet, c'est toujours dans sa ligne de pensée, c'est de sa façon de faire. Chaque fois d'envoyer son prophète avec la parole, il confirme ce prophète. Et là encore, c'est un signe promis. Le prophète lui-même est un signe. La Bible le dit. Quand vous voyez s'écouler les laps de temps, et qu'ensuite vous voyez venir considérer l'histoire de la Bible, étudiez-la. Chaque fois qu'on voyait s'écouler un laps de temps assez long, mais juste au moment où on voyait apparaître, Dieu était sur le point de juger le monde, ou quand la nation, le peuple, quand on voyait arriver un prophète. J'avais apporté une prédication ici, le frère qui est enregistré, vous vous souvenez, un signe véritablement qu'on néglige. S'il est l'église, alors ils l'ont toujours négligé, mais c'est un signe. Alors, sa parole s'accomplit par sa voix. Lorsqu'il promet, alors sa parole, il accomplit par la voix. La venue d'un prophète est un signe avertisseur d'un jugement imminent. Cela a toujours été ainsi. Je vais vous en citer un exemple. Regardez Noé qui a fait son apparition dans les jours du monde de Dieu. Un prophète qui prophétisait. Qu'est-ce qu'il dit? Le jugement s'est abattu aussitôt après. Moïse est arrivé en Égypte, un prophète confirmé, accompagné des signes d'un prophète. Qu'est-il arrivé? Le jugement s'est abattu sur l'Égypte. Élie est entré en scène, le prophète, et il a prophétisé à Cap. Et à cette nation, qu'est-il arrivé? Le jugement s'est abattu sur de toute façon. Jean-Baptiste est venu, il était un signe, il était un prophète, il était un signe prophète, venu sur la terre. Les gens savaient que quand il viendrait, le Messie parlerait après lui. Forcément, c'est qu'il fallait qu'il fasse attendre. Atteindre les élus. Le but de ceci, c'est d'atteindre les élus, ceux qui sortent comme du côté de nous. Comme du temps de les 7000 ou les 700, ou quel que soit le nombre de ceux qui n'avaient pas fléchi les genoux et les appelés à sortir. Jean a appelé les élus à sortir et il a remis ceci entre les mains de Christ quand il est venu. Il faut que je diminue que celui-ci croit parce qu'il a dit, je ne suis pour lui qu'une voix qui crie dans le désert. Il prépare le chemin du Seigneur. Et Jésus est venu de la même manière. C'est ce qui prépare les élus à entendre la voix de Dieu. Voilà, c'est ça, les signes prophétiques. Oh, si vous suivez ces messages, préparez les élus. Pas les autres, eux ne l'entendront jamais. Ce sont les élus qui sont appelés. Vers qui cet ange qui a opéré ce signe à Sodome est-il venu? Vers Abraham et son groupe. Tenez-vous éloigné de Sodome et va être brûlé. Jésus a promis que ça se reproduira de nouveau. Vous savez, pour cette Sodome-ci maintenant, qu'est-ce que cela a produit pour effet? De préparer les élus à recevoir l'abri prévu par Dieu comme à l'époque de Noé, ainsi de suite. Et qu'est-ce que cela a pour effet? De condamner l'incroyant intellectuel à recevoir le jugement. Cela a toujours été, quand on repousse la miséricorde, il ne reste plus que le jugement. Donc c'est là, l'intellectuel incroyant à recevoir le jugement. Parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils condamnent la chose. C'est pour cette raison que les Juifs ont mangé leur propre chair. C'est pour cette raison que les gens laissant refuser jusqu'à l'extérieur de la vie quand Titus le grand Romain l'a ajouté. C'est parce qu'ils ont rejeté le Saint-Esprit. Le jugement était inévitable parce qu'ils s'étaient moqués de ça. Jésus leur avait dit au moment où il avait appelé, il a dit, je vous pardonne, l'expiation n'avait pas encore. Mais il a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, cela n'a jamais... Le jugement pour l'incroyant s'est présenté dans ce but-là, pour éclairer les croyants, pour plonger l'incroyant dans les ténèbres. Et tout comme la colonne de feu, elle l'éclairait pour permettre de traverser vers le pays promis et plonger les ténèbres, ce qui ne fait. C'est ce que font aujourd'hui les signes de Dieu, fermer les yeux de l'incroyant et procurer la vie et la lumière aux croyants pour lui permettre de marcher. Voilà pourquoi cela a été envoyé. Si sa prophétie est vraie, si la prophétie du prophète est vraie et qu'elle s'accomplit, alors c'est l'avertissement de Dieu. Bon, dans Nombre 12, 6, nous voyons la même chose dans l'Écriture. La Bible a été écrite par ces hommes. Or, si nous lisons dans 2 Pierre 1, 21, et qu'il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'autrefois les hommes ont parlé. De même, dans Hébreux, c'est dont nous avons, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont, nous a parlé par Jésus-Christ. La colonne de feu, les signes, la voix, ou la voix allait parler, la colonne de feu dans le buisson, c'était une voix impressionnante qui indiquait que Dieu était sur le point de parler. Remarquez, que ce soit clair là, ne manquez pas ceci. Quand Myriam s'était moquée de son frère, Moïse, et à elle qui était prophétesse, quand elle s'est moquée de lui, que Dieu est descendu dans cette colonne de feu, Moïse a su que Dieu était sur le point de parler. C'était un signe. Et la voix qui allait accompagner, qui accompagnait cette signe, a dit, ne crois, ne craignez-vous pas Dieu. Il a dit, il n'y a personne dans ce pays comme Moïse, mon serviteur. Et ils ont fait la même chose quand ils se sont soulevés, ce qu'ils ont dit que non. Quand Dathan et Corée, dans les revolts de ceci, il n'y a d'autres personnes. Dieu avait destiné Moïse à remplir cette tâche. Alors, qu'il voulait amener un autre groupe de gens de le suivre et qu'il voulait former une organisation, il a dit, sépare-toi d'eux, je vais les consumer. Et c'est ce qu'il a fait, le monde les a emportés. Maintenant, nous voyons que cela a toujours été la manière de faire de Dieu. La colonne de feu indique que la voix est sur le point de parler. Oh, Texas! Comment pouvez-vous être si aveugle? Vous pouvez vous souvenir encore de Houston maintenant. Mais il y a une voix qui accompagne le signe. Moïse, un prophète, un signe prophète pour Israël. La promesse que la parole est sur le point d'être confirmée. Comme la parole de Dieu est parfaite, bien réglée à tout coup. Tout comme l'Urim Thummim dont je parlais l'autre soir. L'Urim Thummim était là et à moins que ceci ne se reflète sur l'Urim Thummim, la voix n'était pas acceptée. Il faut qu'il y ait un signe. Le signe confirme la voix. Et la voix confirme le signe. Et ce qui montre qu'il vient de Dieu. La voix du signe, c'est ce qui dit oui ou non. Si Dieu la refuse, alors la voix dit non. Si le signe était là, Dieu avait dit oui. L'ordre établi par Dieu n'a jamais changé. Nous pourrions nous attarder pendant des heures là-dessus, mais ça n'a jamais changé. Regardez Jonas, le prophète, regardez ce signe-là. Il était en route pour Tarsis. Il a laissé rendre à Ninive. Il a pris une route qui menait à Tarsis. Beaucoup ont condamné Jonas. Jonas ne mérite pas d'être condamné. C'était un prophète. L'Éternel a fermé les pas du juste et il s'était mis en route vers Tarsis. Et nous voudrions condamner cet homme, mais Jésus, lui, ne l'a pas fait. Remarquez, il a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, cela devait servir de signe. De même, le Fils de l'homme devra être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et une génération méchante et adultère cherche un miracle. Et il ne lui sera donné aucun signe de la part de Dieu. Souvenez-vous-en, autre que celui du prophète Jonas. Le signe du prophète, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? La résurrection. Et cette génération-ci et cette génération sodomique adultère en adultère spirituel et commettant des fornications spirituelles contre la vérité de Dieu. C'est moquant d'elle. Une génération méchante et adultère recherchera un miracle et la recevra, ce sera le signe de la résurrection. Regardez Jonas. Ce jour-là, c'était des signes et c'était une grande ville commerciale. Son industrie principale était la pêche. Et on expédiait du poisson partout dans le pays. Les hommes de là-bas étaient pêcheurs, c'était leur métier. C'était des païens qui se livraient au culte des animaux et des idoles et ils étaient devenus très méchants. Tout comme cette nation l'est actuellement, remplie de sectes et de Hollywood et toutes sortes de choses, jusque dans les églises même. Et remarquez ce qui se passe. Et parfois même, le sexe appeal est qualifié de moderne dans l'Église. Comment cette nation pourrait-elle subsister alors qu'elle soutient ce genre de choses? Vous vous dites chrétien, vous réglez votre conduite sur ce genre de choses. Comment pourrait-elle subsister? Comme mon bon ami Jacques Maure l'a dit il y a des années, si Dieu ferme les yeux sur ces faits, tout à fait, il sera obligé en tant que Dieu juste de résister Sodome et Gomorrhe, s'excuser d'elle de les avoir brûlés. Vous êtes voué au jugement, il faut l'admettre. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Notez pas ça, je deviens vieux, mais vous verrez ce qui ne va pas. Si j'ai une longévité, une durée de vie, je serai là pour voir cela. Encore quelque chose, quelques années ce sera. Jonas, ils étaient tous là en train de pêcher vers midi. Voilà le dieu de la mer qui arrive, la baleine, qui s'avance en vitesse vers le rivage et vomit les prophètes sur le rivage. Quel signe! Dieu leur a apporté son prophète muni d'un message. Là, ils ont vu le signe, ils croient à ce signe, mais maintenant, le message, qu'est-ce que c'est? Repentez-vous, voilà la voix du signe. La voix du signe, c'est « Repentez-vous, sinon dans quels 40 jours vous périrez ?» Ils ont eu assez de bon sens pour se repentir. Jésus a dit « Ils condamneront cette génération parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. » Il y a ici plus que Jonas. La voix, c'était « Repentez-vous, sinon dans 40 jours vous périrez. » Jean le prophète apparut, le signe d'un prophète qui apparut alors qu'il n'avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Ils avaient eu tous les intellectuels, je vois d'ici les gâchis dans lesquels ils se trouvaient. 400 ans sans prophète, mais le moment de la venue du Messie rapprochait. Or, Jean, qui était prophète, était le signe que le Messie était sur le point de parler. La voix du signe. En effet, dans Malachie 3, nous voyons, « J'enverrai mon messager devant ma face. » Élie devait venir devant sa face et Élie est venu. Jean, avec l'esprit de la puissance d'Élie, est venu et a fait exactement ce que les Écritures avaient fait et qu'ils n'ont pas compris. C'est ce qu'il dit l'Écriture. Il était le signe, un signe prophète qui indiquait que le Messie allait parler. Ce prophète le savait, il le savait si bien qu'il a déclaré, eh bien, au milieu de vous, il y a quelqu'un en ce moment. C'est le Messie dont je parlais au milieu de vous. Je ne suis pas digne de délivrer ses souliers, celui qui baptisera du Saint-Esprit de feu. Moi, je baptise d'eau pour amener à la repentance. Mais il vient après moi, il est au milieu de vous en ce moment. Un jour, il a vu s'approcher un jeune homme et il a vu cette colonne de feu sous la forme d'une colombe qui descend de Dieu. Une voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. Il dit, en qui je me plais à demeurer. C'est simplement un verbe qui précède l'adverbe, donc c'est pareil. En qui je me plais, cela ne fait pas de différence. Remarquez, je me plais à demeurer en lui. Jean a dit, Jean, rends témoignage. Celui qui m'a parlé dans le deuxième, dans le deuxième m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, demeurer. Amen. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit de feu. Et Jean rend témoignage. C'est la vérité. Qu'est-ce que c'était? Ce prophète était le signe que le Messie était sur le point de parler. Le Messie, c'était quoi? Le Messie, c'était la parole dans sa plénitude. Il était la plénitude de Dieu. Le prophète était une petite lumière vacillante. Mais en lui, il y avait toute cette lumière dans ce Messie. Car il était le Dieu manifesté qui s'était fait Emmanuel, Dieu parmi nous dans une chair humaine. Le Messie était sur le point de parler. Et remarquez, la Bible dit que la parole du Seigneur vient au prophète. Oh, voici celui de qui Jésus a dit qu'il était le plus grand prophète qui ait jamais vécu. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 11. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme agité par tout le vent. Cette dénomination-ci qui dira, je t'ai donné un plus, tu n'as rien à faire. Pas Jean, non, non. Un homme qui marchait sur les pieds. Non, c'était un prophète rude et qui ne marchait pas seulement. Êtes-vous allé voir un homme en grande tenue qui porte la soutane? Il a ajouté, non. Eux, ils demeurent dans le palais du roi. Ils marient les jeunes et ils embrassent les bébés en terre, les vieux. C'est ce genre-là, ils ignorent tout d'une épée. Alors, qu'est-ce que vous allez voir un prophète? Il a dit plus qu'un prophète. Bien sûr, il était le messager de l'Alliance, celui que Dieu avait promis d'envoyer. Et remarquez, voici Jean qui est dans l'eau en train de baptiser et qui dit, il vient. Et voici la parole qui n'est plus au ciel, mais qui a été faite chair. La parole est faite chair. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Quel ordre établi dans le Christ? La parole est venue au prophète jusque-là. Juste là, dans le désert, juste là, dans le bassin d'eau. La parole est venue au prophète. Jean levait les yeux et il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et ce docteur de vice de l'Église. C'est comme le docteur de vice de l'Église, qui peut-être qu'il est ici, C'est qu'il a je sais qu'il habite ici dans le Texas. Je me souviens qu'un jour nous avions discuté là-dessus, j'étais un jeune homme. Il disait, ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, Jésus a baptisé Jean après quoi Jean a baptisé Jésus. Parce que Jean n'avait pas été baptisé, ça ne me semblait pas juste. Je continuais à attendre, à veiller, à prier, et je ne voulais rien savoir. Mais un jour, là, le Seigneur me l'a dit. Mais maintenant, remarquez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, alors pourquoi viens-tu vers moi? Jésus a dit, laisse faire, car il est convenu que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jean savait qui il était. Il y avait là les deux leaders du monde, les deux leaders de l'Église, Dieu et son prophète, se trouvaient là ensemble. Maintenant, regardez bien, ils étaient bien placés pour le savoir. Jésus a dit, laisse faire, c'est juste. Mais il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. La parole promise. Les sacrifices devaient être lavés avant d'être présentés. Jean baptisait Jésus parce qu'il était le sacrifice, voyez. Le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. Il s'est avancé, le sacrifice a été lavé, puis il a été présenté comme il le doit et il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il est rencontré par lui et voici l'Esprit de Dieu de Samson, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est là qu'il a été présenté publiquement. Mais avant que le sacrifice puisse être, il devait d'abord être lavé. C'est la loi de l'Ancien Testament. Très bien. Le Messie était sur le point de parler puisqu'il y avait là le signe du prophète. Et quand ils ont vu arriver ce prophète, après cette période de 400 ans sans prophète, ils savaient que la prochaine voie serait celle du Messie. Maintenant, vous qui lisez la Bible, réfléchissez sérieusement pendant quelques minutes en observant sa nature. Comment se fait-il qu'il n'ait pas? Comment se fait-il qu'il n'ait pas reconnu que c'était lui? Sa nature avait été identifiée, son esprit et sa nature avaient été identifiés comme étant ce délit. Maintenant, remarquez de quel esprit il s'agit. Or, lui, c'était Jean-Baptiste, mais l'esprit d'Élie était sur lui. Remarquez, d'abord, Élie était un homme qui aimait le désert. Vous voyez? Ce même Jean était un homme qui vivait dans le désert. Élie était un homme qui avait condamné de toutes ses forces les systèmes des organisations de cette époque-là. Jean aussi. Race de vifs serpents qui vous a appris à fuir la colère. Ne vous mettez pas à dire j'ai ceci, j'ai autre chose. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants, Abraham. Vous voyez le dieu de nature? Et regardez Élie. Il avait condamné toutes ces Jézabel au visage fardé de son époque et ses femmes immorales. Et Jean, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose avec Hérodias. Pour tous les deux, ça a été une cause de mort. Regardez Élie. Après avoir accompli cette importance, Jean a fait la même chose. Mais il était couché là-bas, il a envoyé, il a dit, allez lui demander ce que c'est lui ou bien devons-nous entendre Jésus. Jésus le savait. Il était Élie et il savait qui il était parfaitement identifié à ce qu'Élie avait été. Il avait l'esprit d'Élie. Cet esprit-là, il doit venir à cinq reprises. Élie, Élisée, Jean, Malachie 4, ensuite pour les Juifs. Les derniers jours, nous y sommes ce soir, l'esprit d'Élie. Remarquez bien. Bon. Aujourd'hui, je veux que vous considérez le prophète Acab, contemporain que nous avons aujourd'hui. Il laisse les femmes couper les cheveux, se farder, porter les choses fumées, faire n'importe quoi, ce n'est pas grave. Nos prophètes d'Acab aujourd'hui, ils suivent la tendance. Bien sûr, ils mènent les gens par des traits de fait des mains d'hommes et par des dénominations. Qu'est-ce que c'est? Les prophètes d'Acab. Les prophètes d'Acab. Nous avons besoin de notre Michel encore entré en scène. Ou du temps de... C'est Élie qui était entré en scène. C'est lui qui a été promis. Il mène des gens en les faisant suivre la voie qui leur plaît. Sinon, si on ne les traite pas bien de ce côté, ils iront de ce côté-là, derrière ceci ou tout en... Eh bien, ils n'ont jamais été sauvés pour commencer. Leur nature même le prouve. Peut-on cueillir des raisins sur un arbuste? Sur un arbuste épineux? Peut-on faire produire des pastèques à un plant de citrouille? Leur nature même démontre qu'ils ne veulent pas avoir rien à voir avec la parole. Ils s'en moquent et ils la blasphèment. Alors qu'il est écrit, ainsi dit le Seigneur, ces choses doivent arriver. Et ils tournent cela en désordre, ils s'en moquent. Ce n'est pas étonnant que Jésus a dit, la reine du midi s'élèvera avec cette génération dans les derniers jours et la condamnera parce qu'elle est venue de ses extrémités de la terre pour voir un homme qui avait un don de message. Il a dit, il y a ici plus que Salomon. bien sûr. Salomon, c'était son époque, a été l'une des époques la plus glorieuse. Les gens ont tous foi en ce don que Dieu leur avait donné. En Salomon. Nous autres Américains, nous cherchons toujours à élaborer un programme anticommuniste. Le programme de Dieu, le voici. Repentez-vous et tournez vers Dieu. Un programme. Si nous le faisons, nous allons oublier le communisme. Alors, que tout Israël avait cru. Si l'Amérique voulait simplement croire à un don, Dieu nous a donné en ce jour. Son Fils, sous la forme du Saint-Esprit, ressuscité des morts, vivant parmi nous selon sa promesse. Si nous, seulement nous cherchons cela, ça n'atteindra que les élus, car nul ne peut venir à moi si mon Père ne la tire. Il suffit de semer la semence, elle tombe, et une partie de ce côté-là. Elle prendra racine et qu'elle se trouve. Ils la saisiront. Remarquez, ils en étaient là. Nous voyons qu'à cette époque-là, Akab, cette nation-là, avait amené ces Israélites à faire tout ce qu'ils voulaient, tout en continuant à faire ça. Et il a condamné cette génération. De tout son être, Dieu a confirmé ce qu'il était. Il était prophète. Juste avant l'avenir, Jean a fait la même chose. Il s'est avancé tout droit en Israël. On avait marié cette femme, Héros, la femme de son frère Philippe. Il s'est avancé tout droit vers lui et l'a affronté, n'a pas mâché ses mots. Il n'avait pas de cadre d'association. Il s'était associé avec Dieu seul. Il était son prophète. La parole était avec lui. Il n'avait pas à aller s'interroger aucun évêque. Il avait la parole. Il s'est avancé tout droit vers lui. Il a dit. Il n'était pas permis de l'avoir comme femme. C'est vrai. Il n'a pas épargné. Il n'a épargné personne. Ces femmes méchantes qui commettaient adultère, qui se conduisaient mal. C'est comme Amos quand il est entré en scène. Il a prononcé le regard dans la salle. Quel regard il a dû poser sur la vie de Samarie. Les touristes, les trouvaient à tout bain avec ses prédicateurs qui étaient tout en amont là-bas. Et des convenances avec des nations, avec tout le monde. Il a plissé les yeux, son crâne chauve-luisé, ainsi s'est présenté là. Il a dit, il ne paye pas mine, mais il a dit, il avait le « ainsi dit le Seigneur ». Nous avons besoin qu'un Amos entre en scène aujourd'hui. Ce serait bien réussi. Certainement, s'il entrait en scène, il démolirait chaque organisation, chaque dénomination, chaque femme qui porte des shorts, chaque Jézabel aux cheveux coupés, il les démolirait carrément. Les gens les jetteraient à la rue en disant, mais il aurait dit, il aurait ainsi dit le Seigneur, car c'est bien ce qu'il était écrit. Bien sûr, principalement, il n'y avait personne qui parait né son programme. Et c'est que cette grande ville, il était un inconnu qui n'avait pas de cadre d'association. Il n'avait pas de parrainage de personne. Il n'avait pas de cadre d'association. Il n'était pas sorti d'une. Mais il avait le ainsi dit le Seigneur. Et sa venue en tant que prophète était un signe. Sa voix venait de Dieu et elle a été identifiée du temps de Jéroboam. Jéroboam, tout ce qu'il avait. Maintenant, nous voyons qu'en ces jours, c'est tout simplement la même chose qui s'est reproduite de nouveau. Les ministres et les gens, ils ont honte de prendre position en chair de l'évangile pour eux. Ce n'est plus qu'un gagne-pain. Ils ne veulent pas se prononcer de pair qu'un homme soit contre. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse vous exclure du ciel. C'est Dieu. Comment pouvez-vous être exclu ici alors que vous en avez tenu sa parole? Souvenez-vous, la Bible dit que c'est en ce temps semblable qu'au jour d'Élie. Un jour semblable au jour de Jean, que Malachie 4 va revenir sur terre de nouveau. J'enverrai Élie. Et ne confondez pas cela avec Malachie 4. J'envoie mon messager devant ma face. Mais dans Malachie 4, il dit, juste avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand redoutable, où la terre entière sera ardente comme une fournaise, où les justes sortiront en foulant des cendres des méchants. Ça, c'est le millénium. J'enverrai Élie le prophète. Et que fera-t-il? Il ramènera la foi des enfants au Père apostolique. Il devra forcément être prophète. Je l'enverrai. Il sera parfaitement bien identifié. Il aura la même nature qu'Élie tout à fait. Son message sera exactement du même genre. Il condamnera, il démolira. Aucune association, aucune collaboration, rien du tout. Mais il aura le « ainsi dit le Seigneur ». Maintenant, souvenez-vous, toutes sortes de groupes se sont levés en disant, le manteau d'Élie, c'est ceci, la doctrine d'Élie, c'est ceci. Tout un groupe, toute une organisation devient un groupe d'Élie. Ou le manteau d'Élie, ce n'est pas l'écriture. Ce n'est pas l'écriture, ça. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe. Comme ça. Quand Élie est entré en scène et Jean-Baptiste aussi, tous les deux ont condamné le groupe de l'organisation. Jamais ils n'ont fait ça. Ils condamnent ces gens, leur conduite. Jean et Élie, tous les deux. Non pas un groupe ni une dénomination, mais tous les deux, chacun en son époque, ils ont condamné les groupes et les organisations. Et alors, les signes du temps de la fin accompagnera certainement la voix du temps de la fin. Élie doit entrer en scène un homme loin de cet esprit. Un homme de bois et tout, un amoureux de bois qui entrera en scène. Bon, maintenant, regardez bien ce que dit l'Écriture comme ça. Vous ne serez pas séduits. Voyez-vous le signe du temps de la fin et la voix du temps de la fin. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe nulle part dans l'Écriture. Il traite avec un seul individu parce que tous les hommes sont différents les uns des autres. Tous les hommes, nos pouces sont différents, nos nez sont différents, nos actions sont différentes. Il met la main sur un seul homme pour pouvoir amener celui-ci à être en harmonie tellement parfaite avec la parole. C'est pour ça que Paul a dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil au point de m'élever au-dessus des siens de la révélation. Matthieu a écrit, Luc a écrit, Marc a écrit tout cela, mais eux, ils avaient seulement suivi ce que Jésus avait, qu'il avait. Mais Paul, lui, avait la révélation de qui il était. Voyez-vous ce qu'il a dit, ce qu'il voit? Il en avait une si grande révélation qui lui a fait écrire la Bible comme Moïse à l'Ancien Testament. Comme si l'Ancien Testament. Ce grand homme Paul, cette révélation qu'il avait. Il savait que le Jésus du Nouveau Testament était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il en avait la révélation et pouvait présenter ça clairement aux Hébreux, et aussi aux Romains, aux Éphésiens et tout. Et il a écrit ses lettres. Remarquez, c'est après l'apparition de son signe qu'il a écrit les lettres. Cette nature à l'avenir, ce sera la même. Ce ne sera pas un groupe, ce sera un seul homme. Jamais Dieu n'a traité autrement. Élie n'était pas un groupe. Jean-Baptiste n'était pas un groupe. Ils étaient un seul individu. Dieu, dans Malachie 4, ne dit pas « j'enverrai un groupe ». Il a dit « j'enverrai Élie ». On ne peut pas modifier la parole. Maintenant, observez les signes et la voix du temps de la fin viendront selon l'ordre établi dans l'écriture compromis. Nous voulons savoir quel sera le signe de la fin. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24, 25. Il nous l'a aussi dit dans Apocalypse au début, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Puis il a dit au chapitre 19, le millénium commence quand il arrive. Monté sur un cheval blanc. Il viendra ce signe du temps de la fin. Maintenant, écoutez, je termine ceci. Il viendra exactement comme l'Écriture l'a dit. Maintenant, remarquez, la voix du signe. Or, Jésus, dans Luc 17, 30, a promis ce signe du temps de la fin, le dernier signe. C'était Dieu manifesté dans un corps humain qui a pu discerner les pensées et l'esprit de Sarah, qui se trouvait derrière la tente. Voilà ce qu'il a dit. Voilà le signe qu'il a promis. Il serait connu dans le dernier jour quand le Fils de l'homme se révélera. Quand le Fils de l'homme se révélera, c'est par ce signe-là qu'il se révélera. Maintenant, vous voyez, ce n'est pas ça qui est dit maintenant. Alors, pourquoi voulez-vous dire que non, ce ne sera quelque chose? Non, ce sera de construire un grand édifice, un grand... Non, ce n'est pas ça. C'est complètement à côté de là. Ça, c'est du côté opposé. C'est contraire à ce que Dieu a dit de faire. Remarquez ce que nous avons dit là. Les Écritures correspondent parfaitement. En effet, nous avons déjà le signe de Sodome sur le plan naturel. Quand y a-t-il déjà eu autant d'homosexuels, de perversions et tout ça qu'il y en a maintenant? Une génération méchante et adultère. Alors qu'on ne peut même pas allumer la télévision sans qu'il y ait ces espèces de grossières d'obscénité qui viennent de l'eau. Et des gens qui se disent chrétiens au lieu d'aller à la réunion de prière, ils restent à la maison pour regarder ces choses pareilles. Ça montre quel esprit qui est en vous. Les femmes s'habillent exactement comme ces femmes-là et les hommes se laissent mener par le bout du nez pareil. Comme, est-ce que nous allons prendre l'exemple sur le lieu ou bien où nous allons croire? C'est que dit la parole de Dieu. Ce même groupe de gens, ils voient la parole et confirment, ils s'en moquent parce qu'ils sont morts. éternellement morts, ils n'ont jamais été en vie. S'ils avaient déjà été en vie, ils le seraient pour toujours. Ils sont éternels, mais ils n'ont jamais été en vie. Ils sont toujours éternels et ils auront peut-être. Jésus a dit, hypocrite, sacrificateur de sang. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Vous m'appelez bon, rabbin. Ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils voyaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Il était la parole. La Bible dit la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. Donc, ces signes de Sodome est réapparu sur le plan naturel. Et si c'est bien en place, exactement tel que ça doit être sur le plan naturel. Alors, comment pouvez-vous faire abstraction du plan spirituel? Pensez qu'il n'en est pas ainsi en même temps. Les deux cadres sont là. Oui, sur le plan naturel, car tout le monde est d'accord que c'est vrai. Mais sur le plan spirituel, ils ne veulent pas le croire parce que ça dérange la doctrine. Luc 17 est le signe. Luc 17 est le signe dont Jésus a parlé. C'est-à-dire que dans les derniers jours, les nations, les églises, les peuples seraient exactement comme c'était à Sodome. Le monde des nations. Juste avant que Sodome ait été brûlé, et qu'il y aurait un groupe qui serait dans l'attente comme Abraham. Retournez voir alors que Jésus a dit, il a serré des mains comme au temps de Sodome. Retournez voir comment il a lisé la même Bible que nous lisons, même Bible, mais retournez voir comment il est allé. Il y avait là un groupe élu appelé à sortir. Le groupe d'Abraham attendait un fils pour lui. Les sodomites, eux, n'en croyaient. Il y avait celui qui était là et les membres de l'église qui se trouvaient là. Regardez ces trois qui sont venus. Observez quelques. Alors, voilà quel est le signe. Quel sera le signe? Et la voix du signe, ce sera Malachie 4, de ramener les gens à la foi apostolique des pères. Voilà le signe, voilà la voix qui concorde parfaitement avec l'Écriture. Voyez, le signe, c'est le signe qu'il y a eu à Sodome. Dieu est manifesté dans des êtres humains. Il a dit, où est Sarah, ta femme? Il a dit, elle est là, j'attends derrière toi. Il a dit, je vais te visiter au temps fixé comme je te l'ai promis. Et Sarah qui était derrière a dit, où? Comment est-ce possible que je sois une vieille? Et lui est un vieil homme comme son mari là-bas. Elle a dit, il n'y a rien de cela entre nous. Elle a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté de cela? Et Jésus a dit que cela se répéterait. Et souvenez-vous, Abraham a été appelé cet homme Elohim, Dieu. Dieu, ça ne pouvait être que lui. Pourquoi? Il a pu discerner les pensées, il est arrivé exactement au temps. Et Elohim, le Saint-Esprit, pas une autre personne, la même personne, reviendrait dans l'église et ferait la même chose. Et ce sera le signe. Et la voix, ce sera de les appeler à revenir à la parole, de ramener la foi dans les enfants au Père. Voilà le signe et la voix. Généralement, les signes, on les accepte, mais la voix, non. Les gens n'aiment pas la voix, mais le signe, ça, ils l'acceptent généralement. Ils acceptent, ils aiment le signe parce qu'ils aiment regarder ça, ça les intrigue, ça les fait plus. Mais la voix, ça, ils ne veulent pas de l'accepter. Souvenez-vous donc, la voix. Reportez-vous de nouveau à la parole. Le signe messianique de Jésus, selon Isaïe 35, le boiteux sautera comme ça, tout ça. C'était merveilleux. Ça, ils l'ont apporté. Ça, c'était bien. Quand ils crient ça, ils ont cru aussi. Viens, Rabbi, à mon église, nous t'apporterons notre entière collaboration. Bien sûr, nous croyons en toi. Tu es le merveilleux, tu es le rabbin, tu es le jeune prophète. Viens, toute la collaboration possible, le signe est merveilleux. Mais quand la voix s'est fait entendre, elle a dit, moi, le Père, nous sommes... Oh là là, ça, ils ne pouvaient pas les croire. Tu te fais Dieu, ils ne voulaient pas de la voix. Ils aimaient les signes. Ils savaient, ils reconnaissaient que c'était le signe du Messie. Mais la voix, ça, ils n'aimaient pas. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Ils ont dit, il a dit, race de serpents. Et ils haïssaient cette voix-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont expulsé cette voix-là du milieu d'eux. Ils l'ont expulsé. Jésus a dit, s'ils appellent les maîtres de la maison Belzébuth, combien plus fort ils appelleront ici les serviteurs. Souvenez-vous dans Apocalypse 3, l'âge de l'Odyssée. C'est maintenant le signe de Sodome doit venir. La voix Revenez à la parole, détournez-vous de ces créateurs, de ces dénominations, et détournez-vous vers la parole. Et quand cela est venu, c'est l'apôtre 3, il a été expulsé de l'Église, tout comme à cette époque-là. Les signes très bien, mais la voix, ils ne veulent rien avoir avec la voix. Non, la voix, pas. Mais Moïse a dit que si Dieu a dit, ils ne veulent pas croire à la première voix, du premier signe, et c'est de leur faire accepter la seconde. Mais s'ils refusent, alors va chercher de l'eau et répandre sur la terre. C'est ainsi, autrement dit, lave, secoue la poussière de tes pieds comme ça. Et dit, prends de l'eau et du fleuve, elle deviendra du sang pour montrer que c'est ça ce qu'il fait. Et voici, c'est ainsi qui est arrivé. S'il n'avait pas crié au signe, alors le troisième signe touchait vraiment les dieux. Tous les ministères ont trois signes. Ils sont envoyés par Dieu. Jésus a eu trois signes. Moïse a eu trois signes. Moïse a eu trois signes. Élie a eu trois signes. Toutes choses. Et tout vient par avec. Il y a trois signes. Remarquez, écoutez, mes amis. C'est fait un peu tard. Oh là là, je ne savais pas qu'il était si tard. Si vous pouvez croire au signe de Sodome, dont il est fait mention dans le livre, voyez-vous tel qu'il est promis, croyez-vous ce signe? Mais alors pourquoi ne pouvez-vous pas accepter la voix de Malachi qui suit les signes, disant de revenir à la parole? La Bible dit, et vous le voyez, alors écoutez la voix du signe. Fuyez la colère à venir. N'allez pas penser parce que je fais partie des assemblées de Dieu, des méthodistes et des baptistes et des pistères et d'Amédon, le droit d'entrée. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Tournez-vous vers la parole, abandonnez votre mondanité, vos systèmes, organisez tout ça. Dieu les détruira de dessus la face de la terre. Il les enverra tout au fond de la mer de l'oubli. Comme il avait fait dans le cas de l'Égypte, au moment où il a appelé Israël, une nation a sorti, une nation, quand il a appelé l'épouse à sortir, et celle-ci passera par des tribulations, la terre sera baignée de son sang. Fuyez la colère à venir, car elle est proche. Si vous ne pouvez pas voir ces choses, je ne sais pas ce qu'ils voient. Je suis seulement responsable de les lire et d'en parler. À vous de décider. Si vous pouvez croire au signe, alors croyez à la voix qui suit le signe. Oh là là. Regardez Moïse, le type de maintenant où il faut sortir. C'est lui qui devait parler de ces gens d'une promesse qui avait été faite aux pères. Et je me souviens de la promesse que j'ai faite à leur père. Et alors, qu'est-ce que Moïse devait faire? Ramener le cœur des gens à ce que le père avait dit. De même que Moïse devait le faire en ce temps-là, de même Malachi 4 doit ramener les gens à la foi des pères. Au milieu de tous ces mélimélos de dénomination et tout, revenez à la parole. Je sais que vous, que beaucoup de gens aiment le faire, ce n'est pas juste vous ici que je réprimande. Ces bandes vont dans le monde entier, voyez-vous, partout. Ce n'est pas à vous que j'adresse la réprimande, mais j'adresse la réprimande à quiconque est consacré. N'importe où je suis, un semeur de semences. Je ne peux rien faire de la décision. Et vous fuyez la colère à venir. N'ayez pas pensé que, parce que vous êtes pendu, n'allez pas penser que, vous, que votre mère était une méthode sanctifiée, votre père un baptiste qui poussait les cris. N'allez pas penser que ça aura quelque chose à prouver. N'allez pas penser que parce que vous êtes membre de l'Église, qu'ils ont compris. N'allez pas penser que parce que vous, le pentecôtiste, vous avez couru de l'autre. N'allez pas penser parce que vous allez faire des réunions, des guérisons. Ne manquez pas de voir ces signes, une colonne de feu que Dieu a manifesté et la voix derrière cela, de se tourner vers Dieu et de revenir à lui. Ne laissez pas cela passer à côté de vous. Il y a un signe, il y a une voix. Et quand un homme arrive à un signe et la même école de pensée qu'avant, alors qu'il y a quelque chose qui cloche, ça ne vient pas de Dieu. Oh mon là là. Aplanissez ces sentiers maintenant. Alors, vous croyez-vous? Vous y croyez? Alors, retournez au aveugle et dispersez vers le vôtre. La Bible, le compositeur a dit, les nations se disloquent, Israël se réveille. Les signes de la Bible a dit, les jours des gentils sont comptés, ils sont remplis de foi. Retournez et dispersez vers le vôtre. Venez, revenez, le prophète a dit, au temps du soir, il y aura de la lumière. Juste avant qu'il y ait d'obscurcissement total du soleil, il y aura de la lumière. Marchez dans la lumière, pendant qu'il y a de la lumière. Bientôt, le conseil œcuménique vous posséder, alors il n'y aura plus moyen d'avoir de la lumière. Inclinons la tête. Père Céleste, maintenant c'est entre tes mains, j'ai semé la semence. Je ne sais pas où elles sont tombées. Je te prie de les bénir et qu'elles soient, puissent-elles s'implanter très profondément, exciper tous les endroits pierreux, déraciner tout le ronce et quelque sorte éliminer toute incrédulité. Accorde-le, Père. Nous te remettons maintenant ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous avez la tête inclinée, les yeux fermés, demain soir, il y aura un banquet. C'est aux pécheurs de la ville que je, si le Seigneur le veut, que je devais parler. En ce moment, je parle à une assemblée mélangée. Je n'oserais pas prêcher ceci, ça ne ferait que les rendre plus aveugles que jamais à une réunion comme celle-là. Par contre, vous, ce soir, croyez-vous que vous avez vu les signes et pouvez-vous entendre la voix? Si vous l'avez vu et que vous croyez, et vous qui ne l'avez pas fait, vous qui croyez mais qui ne l'avez pas encore, c'était Christ dans sa plénitude. Voulez-vous lever la main? Que toutes les têtes soient inclinées. Levez la main pour dire, pensez à moi, je ferai volontiers. Que Dieu vous bénisse. Notre Père Céleste, la Bible dit, tous ceux qui crient se furent baptisés. J'ai prié, Seigneur, que ces gens qui ont levé la main, qui n'ont pas été baptisés du baptême chrétien, puissent-ils trouver l'église où on le fait et se faire baptiser à cause du Seigneur. Qu'ils ne soient pas seulement baptisés d'eau et de ce qui n'est qui indique quelque chose se produit à l'intérieur. La Bible dit il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et ce baptême-là est un baptême spirituel. Le corps qui s'est lavé, ça ne sert qu'à illustrer ou à signifier quelque chose se produit à l'intérieur. Mais l'âme, c'est elle qui doit être baptisée du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce qui est éternel doit entrer dans cette nature humaine et transformer cette nature pour produire celle d'un croyant. Je prie qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je te les confie maintenant comme des trophées du message et de la grâce de Christ. C'est en son nom que je fais cette prière. Amen. Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée, avec respect, il ne me reste que 7 minutes. Je ne pourrai pas terminer. Je ne pourrai pas faire une lit de prière en si peu de temps. Je vous demande de rester assis. Voici ceux d'entre vous qui ont des cartes de prière. Ne vous en faites pas, nous occuperons de vous. Mais nous allons simplement voir si le Saint-Esprit voudra bien nous révéler quelque chose maintenant. Si vous croyez en lui, que vous croyez que ceci est le signe, souvenez-vous cet ange. Il était un homme. Il a mangé, il a bu en présence d'Abraham, et pourtant il a dit, alors même que Sarah était dans, il a pu discerner les pensées qui étaient dans son cœur. C'était ça le signe. Il était la parole. Maintenant, si seulement la parole pouvait venir à nous, alors dans ce cas aussi, il a promis d'accomplir la même chose. Maintenant, vous qui êtes là dans l'auditoire, qui n'avez pas de cas de prière, et qui savait que vous ne serez pas dans le lit, quoique je ne peux discerner ce qu'il s'agit de moi. Vous croyez-vous que Dieu peut guérir les malades? Je veux que vous croyez en ce moment, pendant ces quelques minutes. Priez simplement, dit Seigneur Jésus, je sais que cet homme qui est en train de parler, c'est un homme. Seulement, il m'a dit que, il nous a dit ce soir, il nous a démontré que le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas le tuer. Ils ont pu tuer Jésus quand il était en chair, ils l'ont mis à mort. Mais maintenant, il est ressuscité dans son état glorieux, on ne pourra plus jamais le tuer. Il a dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, les prédestinés, ceux qui ont été destinés à la vie éternelle, l'Église, l'épouse, vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation. Vous ferez vous aussi les choses que je fais. Toutes ces promesses qu'il a faites. Or, je sais que quand il était ici sur la terre, Dieu était en lui. Il était Dieu. Il était la plénitude de Dieu. Il était toute la parole de Dieu manifestée. La Bible est toujours Dieu, la parole, et il y a une partie de la révélation qui doit encore être révélée. Il a dit que dans les derniers jours, alors que le monde serait redevenu comme Sodome et le Fils de l'homme réveillé, et que le signe de Sodome réapparaît, alors la voix appellera les gens à revenir, ceux qui ont été destinés à revenir. Nous savons que quand il était ici, des millions de gens sur cette terre n'ont jamais su qui il y était. C'est qu'ils n'avaient pas, à le savoir. Ouais. Il est venu à ceux qui avaient été prédestinés à le voir. Maintenant, priez, restez bien tranquille. Là, ne bougez pas, ou que vous soyez dans le balcon, en étage inférieur, ou que vous soyez, ne bougez pas. Restez assis bien tranquille. Dites, Seigneur Jésus, la Bible dit dans Hébreux 4 que tu es maintenant même un souverain sacrifié qui peut compatir à nos infirmités. Et nous te voyons sur terre quand tu étais ici sur terre, à un moment donné, une simple femme a touché ton vêtement. Et t'es retourné, tu as dit, qui m'a touché? Et là, Ibo s'est caché, mais sa foi avait été identifiée. Jésus lui a parlé de sa perte de sang et lui a dit que sa foi t'a sauvé. Et il est le même souverain sacrifié, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il devra agir de la même manière. Et si vous le touchez, alors qu'est-ce que ça implique? Il faut donc qu'il y ait une chair humaine sur cette. Je suis le serpent et vous êtes le serpent. Il n'y a pas moyen de passer à côté, mes amis. C'est tout simplement l'écrit, c'est la vérité. Le ministre est là derrière, vous croyez ça? Maintenant, dans l'auditoire, soyez vraiment respectueux, priez. Dites, Seigneur Jésus, permets que je touche ton vêtement. Et vous voyez, la personne le plus près de moi est à une distance de 20 pieds, de 6 mètres. Plus, je ne connais absolument personne. C'est pas qui est assis là-bas. Il y a des gens ici, les lits des champs. Hier soir, nous avons vu un malade qui était étendu sur une barque. Cet homme s'est levé et reparti en marchant. Pourquoi pas vous? Il est ici, vous devez venir à ses côtés pour qu'il vous ressuscite ce dernier jour. Maintenant, vous qui croyez, s'il vous semble que vous n'attirez pas votre paix, regardez. Maintenant, comme Pierre a bien dit, regarde-nous, comme Pierre a bien dit, regarde-nous. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Or, la guérison, je n'ai pas ça. Mais ce que j'ai, un don de Dieu, je vous le donne. Si vous le croyez maintenant, Dieu l'a compris. Tout ce que je vous demande, c'est d'y croire. Ce que j'ai, je vous le donnerai. Si vous le croyez, Dieu l'a compris. Essayez seulement. Tenez, c'est ici en ce moment. J'aime ça. Il y a une dame assise juste ici. Elle est assez. Copie-là, elle est assise jusqu'ici. Au bout. Avez-vous une carte de prière, madame? Vous n'avez pas de carte de prière? Oui. Vous n'avez pas de cas de prière, mais vous n'avez pas, croyez-vous, si vous croyez, vous n'avez pas besoin de cas de prière, si vous croyez. Ma voix résonne, c'est pour ça que c'est difficile de l'appeler les gens comme ceci. Mais essayez de m'écouter aussi attentivement que possible. Je ne connais pas, vous n'avez pas de cas de prière. Si Dieu ne me révèle pas, quel est votre problème? Croyez-vous que ce serait exactement la même chose comme il avait révélé à cette femme? Qui était la femme au puits à Sarah, ce qu'elle avait dit. Le croyez-vous que vous croyez que tout est. Vous souffrez d'une maladie du sang, d'un problème de sang. C'est exact. La main, c'est exact. Levez la main, c'est très bien. Si c'est exact, vous ne l'avez pas maintenant. Ça devient lumineux au-dessus de vous. Jésus-Christ vous a honoré. Oh, je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce ne peut être que l'esprit. Maintenant, vous pouvez. Dis-moi, comme les pharisiens, c'est le diable. Vous recevez leur récompense. Moi, je crois que c'est la parole qui s'identifie ces derniers jours, ce n'est pas moi. Tenez, voici une autre petite dame assise là. Elle souffre de varices. Elle souffre de varices aux jambes. Elle a des complications, elle est cardiaque. Elle prie pour un être cher, un frère. Et maintenant, elle pleure. Elle est en contact. Ce frère est dans un état très grave. C'est un diabétique. De plus, il y a une ombre sur lui. Une autre ombre sur lui. C'est un pécheur. Vous priez pour lui. C'est exact. Mademoiselle Felton, si vous croyez que tout votre cœur, Dieu le fera pour lui, vous le croyez, ce sont vos noms. Or, ça, c'est différent de ce que Jésus avait dit à Simon. Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Ayez simplement la foi, ne doutez pas, croyez-le tout votre cœur. Si vous le croyez, Dieu l'accomplira si vous pouvez simplement. Tenez, il y a une petite dame assise là. Elle regarde droit devant moi. Elle est plutôt rouquine. Elle a des cheveux ramenés en arrière. Ne voyez-vous pas? Elle sait que c'est en train de se passer. Parce qu'elle la sent. Si c'est exact, madame, levez la main. Voilà. Oh, je vous suis totalement inconnu. Je ne sais absolument rien sur vous. Mais vous étiez assis là en train de prier. C'est vrai, si c'est vrai, faites comme ceci. Maintenant, si Jésus est le Fils de Dieu, c'est ce qu'il est. Un souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu. Quant à moi, je suis simplement ici en vertu d'un don, en étant moi-même, en me détendant chacun de tout raisonnement humain, en n'utilisant pas ma propre pensée. C'est un moyen de détendre mon esprit et ma pensée. Croyez-vous, moi, Dieu sait que je ne vous connais pas. Vous le savez. Alors là, si Dieu me révèle quel est votre problème, quelque chose, et que vous attendez, que vous désirez ou autre, croyez-vous que Dieu peut faire cela? Si vous avez des problèmes, vous avez des problèmes avec le dos. C'est l'une des choses que vous avez des problèmes avec vos yeux. Croyez-vous que Dieu les guérira et les rétablira? Vous le croyez, vous le croyez? Madame Allman, croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Ce que vous avez demandé vous sera accordé. Croyez-vous? Voici une femme âgée assise juste un peu en arrière d'elle. Là, elle est en train de prier, elle aussi. Elle est atteinte de diabète. J'espère qu'elle ne manquera pas ceci. C'est juste au-dessus d'elle. Elle est assez âgée. Un instant, plus le Seigneur me dit maintenant. Voilà. Elle a saisi. Très bien. J'ai vu le moment où elle est entrée en contact. Elle n'a pas d'ici. Elle est de la Louisiane. La ville d'où elle vient est un endroit appelé Singer, en Louisiane. Elle souffre du diabète. Son nom est Madame Doyle. Si c'est exact, levez la main. Très bien. Je lui suis totalement connu. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais Jésus, le Fils de Dieu, c'est tout sur vous. Il y a une dame assise là-bas qui vient de la même ville, un endroit appelé Singer. Elle souffre d'hypertension. Son nom est Clark. Vous croyez, Madame Clark, très bien, ce que vous avez demandé vous sera accordé. Vous croyez? Voilà le signe, écoutez la voix. Répentez-vous, revenez à Dieu aussi vite que vous le pouvez. Jésus-Christ est ici avec la puissance de sa résurrection. Une génération méchante et adultère reçoit ainsi Jésus-Christ vivant parmi les gens. Il ne pourrait pas accomplir cela ici, il n'y avait que moi. Il faut que vous aussi vous soyez. Venez, il fallait que la femme touche son vêtement. Il fallait que vous touchiez son vêtement. Le croyez-vous de tout votre cœur? Maintenant, si vous croyez, combien de croix? Levez la main. Combien ceci? Bon, si vous le croyez, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront. Maintenant, s'ils font. Nous n'avons pas le temps. Il est 21h30. Voulez-vous simplement poser la main les uns les autres? Alors, faites simplement prêcher. Maintenant, vous savez, à l'état supérieur, vous pouvez aussi. Maintenant, vous savez, et vous savez très bien, maintenant que l'écriture a été prêchée et clairement identifiée d'un bout à l'autre de la salle, je vois encore quelqu'un maintenant même. Il y a quelqu'un d'autre, juste ici, un problème de prostate. Une dame atteinte de tuberculose, dites-donc, c'est vraiment partout maintenant, mais c'est ça. Quoi que d'autre, quoi de plus, on en voit 50 parfois, il y en a de ces nombreux. Jésus l'a fait une seule fois à Sichar et toute la ville a crié en lui. Ils attendaient le Messie. Le Messie est ici, le Saint-Esprit, le Messie d'aujourd'hui. Le Messie qui produit la confirmation de la parole de sa promesse. Et maintenant, je veux que chacun de vous, alors que vous posez vos mains les uns sur les autres, si vous êtes. Alors maintenant, ne priez pas pour vous, mais priez pour l'autre personne tandis qu'elle prie pour vous. Et la même parole qui a promis ceci dans les derniers jours a aussi. Souvenez-vous, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La guérison qui est qui résiste et la voix qui indique que le signe a été reconnu. Ils imposeront les mains aux malades comme signe. La voix est un Alléluia, le Seigneur m'a guéri. Et si ces signes suivent une voix, ces signes-là, si vous êtes un croyant, suivra la voix, suivra le signe. Si je vous présente ce signe que je vous dis de venir à Dieu, de Dieu, il a été présenté parfaitement à quelqu'un seul, un crédit pourra ne pas y croire, voyez? Oui, voilà Dieu qui vient et le confirme pour le prouver. Maintenant, il est ici. Maintenant, chacun de vous priez de la même façon que vous priez dans votre église, que ce soit silencieusement ou priez pour la personne sur laquelle vous avez posé vos mains, parce qu'elle est en train de prier pour vous. Et maintenant, levez les mains. Et dans la présence du Messie, le Christ, le ressuscité, qui est toujours vivant auprès, après 2000 ans, comment pouvons-nous avoir l'esprit si engourdi? Cela devrait enflammer cette nation. Cela devrait amener Beaumont à se repentir, prendre les sacs et la cendre. Mais le fera-t-elle? Non. Mais vous qui l'attendez et qui croyez qu'il le fera, qu'il tiendra sa parole, c'est à vous là que la promesse est donnée. Posez vos mains sur quelqu'un, priez pendant que moi je prierai pour vous. Seigneur Jésus, suffisamment de choses ont été dites, suffisamment de choses ont été faites. La parole qui a été promise a été manifestée. Le Messie, le Christ de Dieu, en cette présence divine, nous le sentons, nous le voyons, nous savons qu'il a promis ceci dans et ce qui verra dans Sodome arrivera quand le Fils de l'homme se lève là. Donc nous le savons, le feu dans les cieux, les bombes atomiques, nous voyons les nations complètement pourries, les nations qui se disloquent, nous voyons qu'Israël est dans sa patrie. Tous les signes qui ont pu être promis sont accomplis. La prochaine étape, c'est la venue du Fils. Oh Dieu éternel, dans la présence de Jésus-Christ, le glorieux Saint-Esprit qui est maintenant ici en train de confirmer qu'il est ici, exauce la prière de ces, exauce ces chrétiens. Quand je repartis, ils diront, c'est frère Branham qui a fait ceci. Quelqu'un d'autre qui ne connaisse pas mes lois. Mais il a promis que la voix aura un signe. Aussitôt puisse-t-il être guéri alors que je te le confie.